France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Bonjour, soyez les bienvenus sur France Musique dans nos programmes d'été. Un réveil en douceur pour retrouver dans un instant Musique Matin et notre cher Gabriel Oliveira Guillon. C'est l'été sur France Musique. Le 7h30, 9h de Gabriel Oliveira Guillon, Musique Matin.
Un bel accueil, merci beaucoup Coco. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette journée du mercredi 4 août. À l'écoute de France Musique, merci de vous réveiller avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Entouré de Granados, Josquin des Prés, Messiaen ou encore Louis Armstrong au programme musical. Et nos rendez-vous, évidemment, dans 10 minutes, la revue de presse et notre reportage depuis Royan. Pas de violon sur le sable, mais un violon sur la ville. À 7h50, comme chaque jour, le jeu de l'été. Ce matin, tenter de gagner le disque Messiaen et Hadès du trio Messiaen et du clarinettiste Raphaël Sévère. À 8h, le journal de Camille Marigot. À 8h10, notre Tour de France des festivals. On fonce vers le sud, cette fois-ci au festival de Menton. À 8h25, place à la création, la musique de notre temps. À l'honneur, ce matin, la compositrice Pascale Criton. Et à 8h30, notre invité du jour, le directeur musical, musicologue, compositeur, organiste, Marcel Pérez, pour ses prochains concerts avec l'ensemble Organum et leur tout nouveau disque. Bien, notre émission peut commencer. Le café est servi, les enfants dorment. Encore un peu. Bon réveil avec France Musique.
Thank you.
Le troisième mouvement Vivace de la sonate en trio numéro 3 en ré mineur, BWV 527 de Jean-Sébastien Bach, arrangé pour hautbois, violon et basse continue. Nous entendions à l'instant Isabelle Faust au violon, Jan Freiheit au violoncelle, Xenia Loeffler au hautbois et Raphaël Alpermann au clavecin. Tout l'été, à l'occasion du cinquantenaire de la disparition de Louis Armstrong, vous avez rendez-vous sur notre antenne avec Florian Royer, un grand amoureux de jazz et qui sait raconter des histoires. C'est tous les samedis et dimanches, entre 18h et 19h, un été avec Louis Armstrong, une série de 16 épisodes jusqu'à fin août, aussi à retrouver sur francemusique.fr. 50 ans de sa disparition donc en 1971, mais aussi précisément aujourd'hui, le 120e anniversaire de sa naissance, Louis Armstrong, parce qu'il est né en 1901, un 4 août, nous allons l'écouter dans un enregistrement de 1938 avec son orchestre dans ce titre Jubilee.
Jubilee, come and join the Jubilee. Gather on the run, sitting in the sun, have a little fun. Oh, Jubilee, come and join the Jubilee. This dude band swinging in land, everybody stand. Once you sing, with a zip and zing. Watch the blues go bing, make the rafters ring. Up to heaven, Jubilee, carnival of joy. Mr. Gloom won't be about, music always knocks him out. Sing a song, you can shout, and join the Jubilee.
Enregistré en 1938 à Los Angeles, Jubilee, une chanson ici interprétée par Louis Armstrong et son orchestre.
C'est l'été sur France Musique.
Et même en été à 7h38, nous ouvrons les journaux pour vous faire part de tout ce qui se passe dans le monde musical. Qui a dit que la musique classique était un monde à part? Pas France Musique, dont les pages actualités nous apprennent qu'un membre de Daft Punk va composer une musique de ballet. 5 mois après la séparation du duo de musique électronique, Thomas Bangalter va se lancer dans la composition d'un ballet pour l'Opéra National de Bordeaux avec la compagnie Preljocage. Un spectacle intrigant intitulé Mythologie. La partition sera jouée par l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine et la création rassemblera 10 danseurs du ballet Preljocage et 10 danseurs du ballet de l'Opéra de Bordeaux. Elle marquera la fin d'un partenariat entamé il y a 4 ans entre les deux compagnies. Représentation prévue du 1er au 10 juillet 2022 au Grand Théâtre de Bordeaux. Pour sa réouverture en septembre, le Met interdira l'accès aux enfants de moins de 12 ans. Fermé depuis mars 2020, le Metropolitan Opera de New York prépare sa réouverture et dans un protocole détaillé sur son site, l'institution affiche l'objectif d'une couverture vaccinale à 100% pour l'audience et le personnel, quitte à interdire l'accès aux moins de 12 ans. pour qu'il n'y ait pas de vaccin disponible. Tant qu'il n'y a pas de vaccin disponible pour l'instant, ils ne seront pas autorisés à rentrer au Met, et cela indépendamment du statut vaccinal de leurs accompagnateurs, peut-on lire dans le communiqué publié sur le site de la célèbre maison d'opéra américaine. Et puis toujours à New York, vaccins et masques seront obligatoires pour la réouverture de Broadway. Cette règle s'appliquera au moins jusqu'à la fin du mois d'octobre dans les théâtres de l'artère new-yorkaise, où la plupart des salles ouvriront dans les prochaines semaines. Mais là, les moins de 12 ans seront exemptés de vaccination obligatoire. Ils devront toutefois présenter un test PCR négatif pour accéder au spectacle. Un papier dans le quotidien Les Échos, signé Philippe Venturini, producteur ici à France Musique. Un papier sur le festival Bach en Combrailles, en Auvergne, dirigé par le musicologue et organiste Vincent Morel. Festival en partenariat avec notre antenne qui propose une programmation à la fois de haut vol et accessible, peut-on lire. Des artistes de renom y côtoient de jeunes ensembles à découvrir dans une même quête d'excellence pour la gloire d'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Bach, bien sûr, un festival à retrouver du 7 au 14 août. Et puis, tout de suite, notre reportage, non pas en Auvergne, mais à Royan. Dernier jour aujourd'hui de ce festival Un violon sur la ville, le petit frère, Un violon sur le sable. Un grand festival qui se tient sur la plage de Royan en Charente-Maritime, mais qui n'a pas pu se tenir cette année en raison des conditions sanitaires. Mais des formats originaux, ludiques et plus intimistes ont été maintenus, comme ce duel de piano sur un court de tennis avec les deux grands pianistes Thomas Enko et Jean-François Zigel. Martin Delacoux y était.
Après violon sur le sable, voici violon sur terre battue, de piano installé sur un court de tennis avec la mer en arrière-plan, un cadre magnifique pour un duel arbitré par Alex Jaffré qui commence forcément avec des joutes très sportives, une petite révision du vocabulaire tennistique.
Monsieur Enko, le smash, c'est pour vous.
L'objectif de ces duels est toujours de trouver le chemin de crête entre accessibilité et profondeur, Thomas Enko.
Ce qui est ludique doit être profond, et ce qui est complexe doit être digeste et ludique aussi. Soit il y a les deux, soit on alterne, mais je n'aime ni faire un concert pour les spécialistes de la musique, ni faire un concert qui prend les gens pour des idiots. Voilà. Je trouve que c'est important que les spécialistes comme les néophytes s'y retrouvent, ils prennent du plaisir, que personne n'ait l'impression d'être laissé sur le côté. Et ça, c'est, pour moi, c'est important dans toute forme d'art et à tous les niveaux.
Après ces improvisations assez complexes, les musiciens se sont donc orientés vers des jeux plus grand public.
Présence de sorciers ici ? Si ? Si, monsieur ? Si, un petit sorcier, mais sorcier quand même.
Sur le cours, les deux musiciens n'étaient pas seulement pianistes, il fallait être un peu comique également. Jean-François Zigel s'en est donné à cœur joie.
Il y a une dimension spectaculaire. Au concert, on peut plus ou moins utiliser. Alors soit on ne l'utilise pas du tout, on arrive, on salue, on ne parle pas au public et on centre tout sur la musique. Soit, comme dans ce genre de format, de duel d'improvisation, effectivement, il y a une part théâtrale, mais c'est un exercice très ancien. On a plein de grands duels dans l'histoire de la musique classique, Beethoven contre Steibelt, Handel contre Scarlatti, Bach contre Jean-Louis Marchand, Liszt contre Thalberg. Et on sait qu'il y avait aussi des caractéristiques un peu théâtrales comme ça.
Toujours finalement dans l'esprit du festival, après tout son slogan est bien « La musique classique seulement pour tous », comme le rappelle le fondateur Philippe Tranché.
Sur la plage, quand on fait le grand violon sur le sable, il y a des familles entières qui viennent. Et les enfants sont là. Et les enfants, ils ont les pieds dans le sable. Et quand les gens ont les pieds dans le sable, d'une part, ils sont tous égaux. Ils n'ont pas de complexe sur la manière de s'habiller. Ils se disent pas, bon, on va aller dans une salle, mais comment se comporter? On n'a pas l'habitude. Et nos enfants, est-ce qu'ils vont être sages ou quoi? Là, ils sont à la plage.
Pas de sable cette fois-ci, mais cela revient au même. Et cerise sur le gâteau, la soprano Amel Brahim Djelloul a fait la surprise au public de venir ajouter l'opéra à ce jeu musical.
Un un reportage de Martin Delacoux à réécouter bien sûr sur notre site francemusique.fr. Et pour clôturer ces 3 semaines de concerts du Festival Un Violon sur la Ville, il y aura ce soir, de Toulouse à Hollywood, un concert carte blanche de Nathalie Dessay et d'Yvan Cassar. Et bien nous allons poursuivre à 7h44 un bout du duel avec Thomas Senko. Soulmate to Léa avec Thomas Senko au piano. Et à 7h49 sur France Musique, c'est l'heure de jouer, comme chaque matin. Tout est prêt, la page Musique Matin sur notre site, vos oreilles bien ouvertes pour répondre à notre question. Alors c'est parti. « et a gagné ce matin le disque Messiaen, quatuor pour la fin du temps, et Cour Studies de Thomas Hadès par le trio Messiaen et le clarinettiste Raphaël Sévère. Un disque paru chez Mirare. Alors pour gagner, donnez-nous la bonne réponse. La question arrive tout de suite. Vous nous écrivez via l'onglet Contactez-nous sur la page de notre émission. Indiquez bien vos coordonnées complètes. Ben oui, parfois les bonnes réponses sont là, mais sans adresse, nous ne pouvons pas vous envoyer votre cadeau. Alors voici la question. C'est un quatuor que Messiaen compose alors qu'il est interné comme des milliers d'autres soldats après la défaite de juin 1940 au camp le Stalag 8A en Silésie lors de sa création le 15 janvier 1941 pour ce quatuor pour la fin du temps. Olivier Messiaen faisait partie des musiciens. De quel instrument jouait-il ? De quel instrument jouait Olivier Messiaen lors de la création de son quatuor pour la fin du temps ? En 1941, jouait-il de la clarinette, du violon, du violoncelle ou du piano ? De quel instrument jouait Olivier Messiaen lors de la création de son œuvre ? Clarinette, violon, violoncelle ou piano ? Je donne la réponse juste avant 9h avec bien sûr le nom des gagnants. Merci en tout cas pour votre participation nombreuse chaque matin, ça nous fait chaud au cœur. Et on écoute un extrait de ce quatuor, l'époustouflante intermède. Donc, Olivier Messiaen sur France Musique, 7h50. Bienvenue à vous. Le quatrième mouvement intermède, du quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen, interprété par le trio Messiaen et Raphaël Sévère à la clarinette, un extrait du disque à gagner ce matin. Merci d'être avec nous tous les matins et bien nous continuons, nous vous faisons part des festivals qui vous attendent et qui sont heureux de vous retrouver, et particulièrement ceux qui ont dû annuler leur programmation l'été dernier ou s'ajuster. C'est le cas du festival Lagrange au piano à Chassignolles dans l'Indre, dirigé par et depuis sa maison, le pianiste Cyril Huvet. Les concerts donc ont lieu dans sa maison d'artiste depuis le 18 juillet et se poursuivent jusqu'au 11 septembre. Et ce soir, c'est un concert de l'ensemble Douce Mémoire avec à sa direction Denis Rézindard depuis ses différentes flûtes à bec. Un concert qui part à la recherche des musiques secrètes des tableaux de Léonard de Vinci qui leur sont en résonance. Léonard de Vinci qui jouait et improvisait également sur la lyra da Braccio. C'est donc ce soir, musique secrète autour de Léonard de Vinci à 21h à Chassignolles dans le cadre du festival La Grange au piano. Les places sont entre 8 et 18 euros. Nous allons les écouter, ces musiciens de l'ensemble Douce Mémoire, dirigé par Denis Rézindard, dans une œuvre de Jean L'Héritier, un compositeur né en 1480.
Thank you.
Absolument sublime, cet Ave Mater Matrice, Dei pour voix d'homme a cappella, composé par Jean l'Héritier, interprété à l'instant par l'ensemble Douce Mémoire, dirigé par Denis Rézindardre, des musiciens qui seront en concert ce soir à 21h à Chassignol dans le cadre du festival La Grange au piano. Dans quelques instants, le journal de 8h et puis nous reviendrons pour la suite de Musique Matin. Je reçois à 8h30 Marcel Pérez, directeur musical de son ensemble Organum. Il est organiste également, compositeurs, musicologues, et nous parlerons ensemble de leur prochain concert ce vendredi dans le cadre du festival Musique à la Source en Creuse, et également de leur tout nouveau disque In Memoria Eterna qui explore les univers du chant mozarabe et du sama marocain. Tout ça va être assez passionnant, et la programmation musicale également. À tout de suite, nous revenons après quelques communiqués.
France Musique vous accompagne tout l'été à 9h et 14h. Partez en balade à travers une programmation musicale riche, surprenante. Elle vous emmène de découverte en découverte. Laissez-vous aller, rêvez, guidez au rythme de Été Classique. Le matin et l'après-midi, à retrouver en podcast sur l'application Radio France. Sur francemusique.fr, La Contemporaine célèbre l'innovation parmi les 9 web radios. De la deuxième moitié du XXe siècle à nos jours, entrez dans les répertoires de la création. Avant-garde, expérimentale. Luciano Berio, Pierre Boulez, Betsy Jolas, Steve Reich, Pascal Dussapin et bien d'autres compositrices et compositeurs d'aujourd'hui à découvrir. Pas besoin d'oreilles expertes, de la curiosité avant tout. La Contemporaine, à écouter en illimité sur francemusique.fr et sur l'application Radio France.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
Merci d'écouter France Musique en ce mercredi 4 août. Et bien, dans quelques secondes, 10 secondes précisément, il sera 8h. Et à 8h, c'est l'heure du journal, journal présenté par Camille Marigaud. Bonjour Camille.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous. Toujours beaucoup de douleur et de colère, un an jour pour jour après la double explosion du port de Beyrouth au Liban, 214 morts, plus de 6500 blessés et des responsabilités qui restent encore à établir, même si l'on sait que les déflagrations ont été provoquées par des stocks de nitrate d'ammonium entreposés sans précaution. Et l'enquête qui avance au ralenti ajoute au traumatisme d'autres. Autant que le visage de la capitale reste lui aussi marqué par ce drame. Même si des milliers de tonnes de débris et de gravats ont été triés et évacués, la question de la reconstruction du port et des quartiers dévastés est toujours sur la table. Le reportage de Christian Chesneau.
Le jour du drame, Youssef Tormé, architecte urbaniste franco-libanais, n'était pas dans son agence, située dans le quartier de la Quarantaine. Heureusement pour lui, ses bureaux seront dévastés par le souffle de l'explosion. Un an plus tard, pour lui, parler de reconstruction est encore prématuré, car le temps du deuil n'est pas terminé.
Pourquoi on est arrivé là? Il est temps d'imposer un silence, un deuil, parce qu'il y a une erreur qui est grave, qui a engendré beaucoup de morts, et on ne peut pas passer comme ça. On ne peut pas reconstruire une ville si on n'a pas vu pourquoi on est arrivé là.
Comment imaginer de nouveaux horizons urbains pour Beyrouth après une telle tragédie? Il faut d'abord prendre le temps d'écouter les habitants et faire de la place à la nature, insiste Youssef Tormé.
Ce qui manquerait, c'est plutôt des arbres, de la végétation. Il faut des endroits où on peut réfléchir ensemble, on peut prendre le temps, on peut s'isoler. Avant, on avait ça dans les églises, dans les mosquées. Et je pense que la végétation, la nature, peut rassembler parce qu'elle est au-dessus des codes.
Pour Youssef Tormé, comme pour bon nombre des habitants des quartiers dévastés, la priorité est surtout d'éviter à tout prix une spéculation immobilière comme celle qu'a connue Beyrouth après la guerre civile.
Le reportage de Christian Chesneau. Et pour aider le pays et la population à se reconstruire, une nouvelle conférence internationale, la troisième depuis l'explosion, est organisée aujourd'hui en France par Emmanuel Macron. Elle réunit une quarantaine d'États et d'organisations internationales et vise à récolter 350 millions de dollars de fonds d'urgence. L'armée afghane demande à la population d'évacuer la ville de Lashkargah en vue d'une contre-attaque pour chasser les talibans présents dans cette localité méridionale. Ces derniers gagnent du terrain partout ailleurs sur le territoire. Des offensives que les forces pro-gouvernementales peinent à endiguer, notamment depuis que les troupes internationales ont commencé à se retirer du pays. Et cela intervient au lendemain d'une double explosion à Kaboul, qui a fait au moins 4 morts et une vingtaine de blessés. Une mine a encore explosé ce matin dans la capitale, faisant 3 blessés selon la police. Aux États-Unis, le gouverneur démocrate de New York, visé par une enquête indépendante qui l'accuse de harcèlement sexuel sur une dizaine de femmes. Andrew Cuomo nie les faits, mais les appels à sa démission se multiplient jusqu'à la Maison-Blanche et au président Joe Biden, qui s'est dit favorable à son départ. La Guadeloupe, de nouveau sous cloche. À partir de ce soir, 20h et jusqu'à 5h du matin, la population ne pourra pas sortir de chez elle, sauf motif impérieux. Durant la journée, les déplacements seront limités. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 se multiplie, tandis que la vaccination peine à décoller. Le nombre de personnes entièrement vaccinées plafonne autour de 16% en Guadeloupe, en Martinique, elle aussi reconfinée, et en Guyane, alors qu'on dépasse les 50% dans le reste de la France. Et les causes de cette réticence à la vaccination sont nombreuses, spécifiques à chaque territoire. En Guyane, justement, la directrice de l'Agence régionale de santé, Clara Debord, souligne que la population est particulièrement jeune et que cela a des effets sur le recours aux soins.
Un Guyanais consomme beaucoup moins de soins que la moyenne nationale en temps normal. L'échange et le contact avec le système de santé est de fait beaucoup plus distendu et se limite parfois malheureusement à un accès en période d'urgence. Chez nous, il y a très peu de soins programmés par exemple. On ne va pas demander d'un claquement de doigts à des gens qui n'ont pas cette habitude-là de la prendre. Pour autant, la vaccination fièvre jaune est obligatoire en Guyane depuis des dizaines d'années, et ça ne pose aucune difficulté d'adhésion, alors que c'est un vaccin qui présente des effets indésirables, connus. Et d'ailleurs, on a plusieurs fois entendu, mais pourquoi vous ne rendez pas le vaccin Covid obligatoire? S'il n'est pas obligatoire, ça veut dire que l'État n'a pas confiance ou n'assume pas les risques d'effets indésirables à long terme, quoi. On nous a vraiment souvent rapporté une incompréhension, voire une suspicion quant à notre insistance, à ce qui est perçu comme une incohérence par certaines personnes. Le vaccin n'est pas obligatoire, c'est votre liberté, mais faites-le.
Des propos recueillis par Roana Favenec. Des perturbations attendues dans le sud et le quart sud-ouest du pays. Aujourd'hui, la Corse et la pointe bretonne resteront épargnées. Il fera 17 degrés à Belfort, 20 à Strasbourg et 24 degrés à Nice. France Musique, il est 8h05. Je vous laisse en compagnie de Gabriel Oliveira Aguillon pour Musique Matin.
Merci beaucoup Camille. À demain, 8h. Le prochain point sur l'actualité, c'est à midi sur France Musique.
C'est l'été sur France Musique. Le 7h30, 9h de Gabriel Oliveira Guyon, Musique Matin.
Musique Matin, effectivement, la suite, c'est maintenant. Je suis très heureuse avec toute l'équipe de passer la matinée à vos côtés, que vous soyez encore au lit, sur la route ou encore au petit déjeuner. En tout cas, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Dans moins d'une demi-heure, nous recevrons le musicien Marcel Pérez pour ses concerts à venir avec son ensemble Organum, la messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut. Et nous parlerons également de leur tout nouveau disque In Memoria Eterna. Dans 5 minutes, notre Tour de France des festivals poursuit sa route. Après 2 jours en Bretagne, bien direction les Alpes-Maritimes pour le festival de Menton. Et à 8h25, place à la création, notre rubrique consacrée aux musiques de notre temps. Ce matin, une œuvre pour flûte basse, violoncelle et guitare, composée en 1997 par Pascal Criton. Et bien voilà, vous avez le programme, France Musique, il est 8h06. Bienvenue.
Andalusa, extrait de la danse espagnole, opus 37, numéro 5 d'Enrique Granados, interprété par le guitariste Emmanuel Rosfelder, qui sera justement en concert ce soir avec le violoncelliste François Salk lors de la 49e édition du Festival de Saint-Robert en Corrèze, au nord-ouest de Brive-la-Gaillarde, pour situer un peu plus, un festival présidé par Sylvain Moulen, qui a commencé le 18 juillet et se termine le 15 août. Nemanja Radulovic avec Laure Favrecane, pardon, était là-bas lundi soir, vous y étiez peut-être. Plein d'autres artistes vous attendent et donc ce soir, concert guitare, violoncelle, Granados, Tárrega, Villa-Lobos, Schubert ou encore Paganini.
France Musique.
Direction maintenant les Alpes-Maritimes depuis notre studio de la Maison de la Radio et de la Musique. Le vélo est-il bien là? Bien oui, je crois. Allez, vous me suivez? Et nous abaissons notre béquille au bord de la Méditerranée à Menton pour la 72e édition du festival cet été. Avec nous, son directeur artistique, Paul-Emmanuel Thomas. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Le festival a commencé ce week-end et se poursuit jusqu'au 13 août. Déjà de beaux rendez-vous. On va en citer quelques-uns. Alexandre Tarot, le Quatuor à Rhodes ou encore Anastasia Kobekina, Beatrice Rana hier soir. Paul-Emmanuel Thomas, déjà de beaux retours du public de Menton.
Oui, tout à fait. Je suis encore dans l'émotion du récital de Beatrice hier soir, qui nous a interprété le premier cahier des études de Debussy et l'intégrale des Scherzo de Chopin. Un magnifique concert avec Beatrice que nous avons avec beaucoup de plaisir retrouvé hier.
Et prochain concert justement sur le parvis de la Basilique Saint-Michel-Archange, donc comme Beatrice Rana, c'est ce soir à 21h30, un concert cette fois-ci piano-violon, Christian Tetzlaff et Lars Vogt.
Voilà, deux artistes que nous connaissons bien au Festival de Menton, la Zotte qui a été en résidence pendant 3 ans pour une intégrale Beethoven, pour les concertos, pour piano, et Christian qui vient aussi régulièrement. C'est l'artiste qui font partie de cette grande famille des musiciens du Festival de Menton.
Alors, Paul-Emmanuel Thomas, est-ce que vous avez quelques autres grands noms d'interprètes à nous donner pour nous donner encore plus envie de venir?
Oui, alors on fait tout un cycle autour de concert de violon. Après le concert de ce soir avec Christian Tetzlaff et Lars Vogt, nous aurons un deuxième concert avec Théotime Langlois de Zwart, ce jeune violoniste tout à fait prometteur et singulier, en duo avec William Christie, Nemanja Radulovic avec son quintet à cordes Les Tris du Diable avec un programme très doux des 60. Renaud Capuçon en duo avec Bertrand Chamaillou avec un programme de musique française autour des deux sonates de Ravel, Fauré, Saint-Saëns. Et puis une clôture du festival le 13 août avec Capella Mediterranea, dirigée par son chef Leonardo Garcia Alarcón, avec un programme de circonstances méditerranéo.
Et oui, nous allons en écouter un extrait dans quelques instants. Alors tout ça sur le parvis de la basilique, mais aussi il y a d'autres lieux à Menton même.
Nous avons une série de concerts dans le palais de l'Europe et puis aussi dans une magnifique oliveraie, le parc du Pien, où le public peut déambuler un peu comme sur des concerts promenades grâce à un système de casque qui vous permet, tout en vous promenant, d'avoir l'impression d'avoir presque la tête dans le piano.
D'accord, et tout ça en regardant la mer.
Exactement.
Ça, c'est
une spécificité de ce festival, c'est que c'est un festival essentiellement en plein air, mais nous avons la chance d'avoir des lieux, notamment le parvis de la basilique Saint-Michel, qui est clôturé par trois façades, ce qui permet d'avoir une acoustique, tout en étant en plein air, une acoustique sonore extrêmement intéressante.
Vous parliez de casque, est-ce que à cause du festival l'an dernier, qui a été condensé mais bel et bien là aussi grâce au numérique, vous avez évolué justement dans ce sens-là, pensé le festival un peu autrement pour cette 72e édition?
Oui, je crois que tous on s'est beaucoup questionné dans cette période troublée, difficile, avec toutes ces incertitudes. Et je crois que néanmoins, malgré tous les dispositifs qu'on a pu mettre en place, je crois que cette période nous a aussi appris l'urgence et la nécessité du spectacle vivant avec la rencontre directe entre des artistes et un public. Cette magie-là, cette rencontre-là, à trouver peut-être nous, par la privation que nous avons subie pendant un certain temps, nous ont rappelé la nécessité de ce lien.
Et donc j'imagine que vous êtes particulièrement ému de voir le public revenir nombreux à tous les concerts que vous proposez encore durant une quinzaine de jours cet été.
Oui, bien sûr, je crois que cette privation, cette absence ou cette difficulté de lien pendant cette période nous fait ressentir aussi bien pour nous les artistes que pour le public cette urgence-là, cette qualité de rencontre.
Et d'ailleurs, c'est
un festival.
Oui, allez-y.
Un festival placé vraiment, je crois, cette année sous le signe des retrouvailles, retrouvailles entre les artistes et le public.
Et ce qui est propre au festival, puisque c'est un festival né en 1950 après la Seconde Guerre mondiale, un projet un peu fou après évidemment une crise humaine et touristique, cette année donc c'est un peu, on pourrait dire, comparable avec dans le même élan.
Oui, je crois qu'il y a un vrai parallèle. Ce festival qui a été créé effectivement au lendemain d'un cataclysme humain énorme, et puis alors toute proportion gardée, aujourd'hui je crois que nous avons aussi particulièrement besoin de culture, besoin de musique, besoin de beauté, besoin de sérénité et besoin de liens tous ensemble.
Merci beaucoup Paul-Emmanuel Thomas d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre festival de Menton 72e édition a commencé le 31 juillet et se termine le 13 août. Nous allons écouter les artistes, certains que vous avez cités, la Capella Mediterranea et Leonardo Garcia Alarcón dans Mediterraneo, justement de Juan Manuel Serrat. Très bon festival.
Merci à vous.
Bonne journée. Thank you.
che se casi che va
provando con l'amore a te lo stesso non envolver e riesco una mujer perfuma di cadebrea
che se agnore che se quiere
che se agnore che se quiere
che se non che se
quiere
Mariana Flores, Maria Hinojosa, Giuseppina Bridelli, Leandro Marziotte, Valerio Contaldo et Hugo Oliveira. Dans cette chanson Méditerranéo de Juan Manuel Serrat, c'est euphorisant, un grand plaisir d'écouter ça ce matin. La Capella Méditerranéa, dirigée par Leonardo Garcia Alarcón, des musiciens qui seront en concert pour la clôture du festival de Menton, vendredi 13 août à 21h30. Sans bouger de chez vous, de votre voiture, vous pourrez applaudir les plus grands interprètes grâce à France Musique et à l'affiche du jour. Une longue et belle soirée depuis Jazz in Marciac entre 20h et, pouf, comme dirait Nathalie Piolet et Alex Dutille, jusqu'au bout de la nuit s'il le faut, à 20h, retransmission d'un concert d'Obradovitch-Tissier Duo, présenté donc par Nathalie Piolet et Alex Dutille. 21h, toujours depuis ce festival de Marciac, le Belmondo Quintet, et puis à 23h, toujours en direct, Michel Portal avec Nils Vogram, Boyan Z, Bruno Chevillon, Stéphane Galland. Et bien voilà, encore une très belle soirée qui s'annonce à partir de 20h depuis Marciac. Et puis plutôt à 16h, présenté par Aliette Delalleux, pardon, un programme Stravinsky, Offenbach et Kurt Weill, avec entre autres Barbara Hannigan. Et Stravinsky, c'était l'occasion de l'écouter ce matin à 8h21. Voici la fameuse sérénade de son Pulcinella. Une œuvre qui marque un tournant dans l'œuvre de Stravinsky. Il compose ce ballet, cette musique entre 1919 et 1920. C'était à l'instant la sérénade de son Pulcinella, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Pierre Boulez. Place à la création. Tout de suite, les musiques d'aujourd'hui s'écoutent aussi à 8h25 tout le mois d'août.
Musique matin.
Et pour continuer à mettre à l'honneur compositeurs et compositrices de nos jours, ce matin, Pascale Criton, compositrice et musicologue, née en 1954. Passionnée par les travaux sur le continuum sonore, Pascale Criton rencontre Gilles Deleuze dans les années 70-80. Elle poursuit aussi un cursus universitaire de recherche musicologique. Et dans le domaine justement de la recherche musicale, depuis les années 80, Pascale Criton explore les micro-intervalles et leur organisation, que ce soit en 8e, en 12e ou en 16e de ton. Son écriture est utilise la scordatura, des accords spécifiques des instruments à cordes, associés aux instruments de l'orchestre et à la synthèse numérique. Et là, justement, vous allez écouter une guitare accordée, pour revenir à ses quarts de ton et encore plus, accordée là en 16e de ton, avec aussi flûte basse et violoncelle, une commande de l'ensemble 2E2M en 1997, où Pascale Criton a cherché à provoquer des sensations de transformation, de mobilité, approcher des variations de matière et d'énergie au seuil de l'imperceptible. Territoire imperceptible, c'est d'ailleurs le titre de son œuvre. Vous allez l'entendre, les trois instruments solistes se tiennent dans un registre grave et se croisent sur une zone d'influence réciproque dans laquelle l'harmonie, les dynamiques et les timbres deviennent indiscernables et tendent vers de pure vitesse et de pure matière. Voici donc ces quelques interprètes de l'ensemble 2E2M, Territoires imperceptibles, de Pascale Criton.
Thank you.
extrait de l'œuvre Territoires imperceptibles, composée en 1997 par Pascal Criton, flûte basse, violoncelle et guitare, accordée en 16e de ton, avec Pierre Roulier à la flûte, Didier Achour à la guitare et Hervé Derrien au violoncelle, des instrumentistes de l'ensemble de ZE2M. À 8h30, tout de suite, sans transition, nous allons accueillir notre invité.
Musique Matin, le 7h30, 9h de Gabriel Oliver Aguillon.
Mémoire vive du Moyen-Âge, mais aussi contemporaine, occidentale, orientale. Avec nous, le directeur musical de l'ensemble Organum, organiste, compositeur, musicologue, Marcel Pérez. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être avec nous ce matin. Nous allons parler de votre riche actualité, un nouveau disque, plusieurs concerts, la vôtre et puis celle de votre ensemble Organum, que vous avez fondé en 1982, bientôt 40 ans, dis donc.
Eh oui.
Et puis je voulais vous faire réagir sur l'œuvre que nous venons d'entendre de Pascal Criton. Il y a quelques liens avec...
Oui, écoutez, c'est extraordinaire parce que c'est une pure coïncidence.
Mais certainement pas, vous doutez de ma programmation.
Pascal Criton, je suis son travail depuis un moment et qui travaille sur les microtons. Et justement, moi aussi, je m'intéresse beaucoup à l'historique de ces microtons depuis l'Antiquité, la Grèce antique, les survivances pendant le Moyen-Âge. Et cette approche du son comme un continuum, je pense que c'est vraiment très très important parce que le son c'est un peu comme le temps, vous voyez, le temps est un continuum aussi, c'est-à-dire on perçoit le temps par une division en siècles, ce qui est bien commode pour se retrouver dans ce flux dans lequel on passe quelques dizaines d'années, mais c'est une distinction qui est illusoire aussi parce que en fait il n'y a pas de frontière entre les siècles et l'essence c'est la même chose, c'est une énergie et on est tout le temps confronté à ce paradigme lorsqu'on essaie de faire revivre des répertoires qui ont disparu, c'est-à-dire qu'il faut retrouver une énergie, quoi. Au-delà des notations, il faut trouver quelle est l'énergie qui a créé cette dynamique, ces sons, et en dernière analyse, eh bien, c'est un flux, quoi. Et donc, c'est.
Et alors, on sait que la musique est comme ça fractionnée, les sons fractionnés, là, par exemple, en 16e de ton, ça existait déjà depuis très longtemps.
Oui, parce que vous savez, quand on regarde l'histoire de la notation musicale, eh bien, en Occident, on commence à s'interroger sérieusement là-dessus, autour des années 800, quand même. Mais il va falloir attendre le 11e siècle pour qu'on commence à pouvoir noter les intervalles. Il va falloir attendre le 13e siècle pour qu'on puisse commencer à noter le rythme. Et c'est pas parce qu'ils étaient idiots, c'est tout simplement parce qu'ils étaient dans cette perception, cette expérience du son et du temps comme un continuum qui n'est pas fractionné. Et donc ça a pris beaucoup de temps et voilà, je suis heureux de voir que bon, il y a des compositeurs aujourd'hui qui intuitivement ont compris que c'était la matière première de la musique, du son et du temps, parce que le son et le temps sont juste deux aspects que nous utilisons, nous, dans notre langage, pour décrire une même réalité.
Marcel Pérez, on va parler de toutes vos actualités, mais je rebondis sur le fait que vous-même, vous êtes compositeur aussi.
Oui. Je viens de terminer une œuvre qu'on a créée à Moissac le 24 juillet.
Lors des 20 ans de votre présence à Moissac.
J'ai terminé de la composer le 23 juillet, on l'a créée le 24. C'est un laboratoire.
Vous êtes dans l'efficacité.
Moissac, c'est un laboratoire où on réunit des gens qui veulent faire cette expérience. Et donc, voilà, c'est vraiment de la musique qui surgit.
Et c'était lors donc, du festival Les Diagonales d'été, c'est ça. Alors, juste pour rappeler aux auditeurs, vous êtes avec nous parce que vous serez en concert ce vendredi 6 août après-demain, donc dans le cadre du festival Musique à la Source en Creuse, en l'abbatiale Saint-Pierre-Saint-Paul d'Évaux-les-Bains, pour donner la messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut, œuvre polyphonique majeure. Et puis, on va parler évidemment de votre nouveau disque, In Memoria Eterna, paru chez Harmonia Mundi ce printemps, qui explore deux univers, ou en tout cas, peut-être un, en tout cas, qui réunit le chant mozarabe et le sama marocain. Alors, le chant liturgique propre aux chrétiens de l'Espagne, et puis le sama, le chant sacré marocain, un répertoire de confrérie soufie marocaine. Qu'est-ce que ça veut dire précisément le mot sama ?
Sama, c'est l'écoute, enfin, asma, vous voyez, en arabe, quand on dit asma, ça veut dire écoute. C'est très stimulant, vous voyez, un répertoire qui s'appelle écouter, vous voyez, parce que c'est un répertoire qui se pratique dans des confréries soufies et au sein de communautés où tout le monde connaît par cœur les textes qui sont donnés. Une cérémonie soufie est composée de types de chants. Il y a des chants de groupe qui sont rythmés et puis il y a des récitatifs. Et ces récitatifs, c'est sur des textes poétiques que tout le monde connaît par cœur, mais qui sont toujours improvisés. Et donc le défi, c'est de dire ces textes que tout le monde sait, mais d'une manière particulière, selon le moment, l'ambiance. Et celui qui chante choisit lui-même spontanément les versets qui vont exprimer ce qu'on est en train de vivre collectivement. Et donc, c'est vraiment une écoute. Mmh. On écoute ces textes avec une manière, une attention particulière et on attend de voir ce qui va surgir de l'instant. Et même quand on a fait ce disque, à chaque prise, on chantait quelque chose de différent.
Bien sûr, ouais.
Donc c'est vraiment, on rejoint ce qui est en fait le propre de la musique. On l'oublie aujourd'hui parce que 99% de la musique que les gens écoutent, c'est la musique enregistrée, mais la musique, c'est l'art de l'instant, quelque chose qui surgit et qui ne revient jamais. Et donc c'est cette expérience que voilà, on a essayé de montrer dans ce disque. Et puis au-delà de ça, évidemment, la rencontre entre ces chants chrétiens et ces chants musulmans, l'idée qui était partie il y a bien longtemps, ça avait commencé en 1997, on préparait l'année du Maroc, qui était en 99. Mmh. Et j'avais remarqué que dans ces confréries soufis, la musique qu'ils utilisaient étaient très proches au niveau de la grammaire musicale, des rythmes, des ornements, du chant mozarabe du 15e siècle. Et l'idée qui était partie à cette époque-là, c'était de faire chanter ce chant mozarabe par des chanteurs marocains.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
sur France Musique à 8h39, la voix de Ahmed Saher dans cet appel à la prière musulmane, Allahu Akbar, un extrait du tout récent disque In Memoria Eterna de l'ensemble Organum dirigé par Marcel Pérez, notre invité. Ce matin, cette voix, Ahmed Saher, chante avec vous depuis de nombreuses années.
Oui, on a commencé en 1997.
Chanteur marocain.
À chanter ensemble. Alors, l'idée de ce disque, c'était de mettre en avant ce que j'appelle les codes génétiques du spirituel. C'est-à-dire, vous voyez, au-delà des dogmes, des traditions, de l'histoire, enfin, lorsqu'on chante et lorsqu'on prie, eh bien, les hommes sont des hommes, quoi. C'est-à-dire, il y a des gestes. Il y a des gestes du corps, des gestes vocaux, il y a une sincérité aussi. Et donc dans ce disque, on a voulu aller au-delà de tout ça et de se rencontrer vraiment sur ce terrain de la sincérité. Et en plus, on était aidé, je dirais, organiquement par la musique elle-même, parce que là, on n'a pas entendu de chant mozarabe, mais c'est la même structure musicale, c'est le même souffle, c'est la même dynamique. Et donc sur ce terrain-là, je dirais purement organique, purement humain, en fait, eh bien, on se retrouve.
C'est une utopie, ça
oui,
fait du bien.
C'est une utopie intégrale, ça a toujours été une utopie, et de nos jours, ça le reste. Mais vous savez, c'est les utopies qui font avancer le monde, et malheureusement, il y a des utopies qui sont positives, et il y a des utopies qui sont négatives. Et même, vous voyez, le nazisme, par exemple, c'était une utopie négative, mais ça fait des dégâts quand même. Et des utopies positives, bien, peut-être qu'elles peuvent créer des choses vraiment constructives.
En tout cas, on est heureux de vous recevoir ce matin pour parler de ces utopies positives. Il y a donc un lien entre une liturgie chrétienne et une cérémonie soufie, Marcel.
Oui, c'est ça. Ce que je voulais montrer par ce disque aussi, c'est que, vous savez, depuis plusieurs années, on ressort ce mythe de l'Andalousie heureuse, où on parle de l'Espagne des trois cultures, où les juifs, les chrétiens et les musulmans cohabitaient en paix. C'est pas vraiment exact historiquement. Il y a toujours eu des conflits, il y a eu des périodes d'accalmie, mais en fait, ça a été une relation conflictuel. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que plutôt que de rêver à une Andalousie heureuse qui n'a jamais vraiment existé, eh bien, cette Andalousie heureuse, construisons-la aujourd'hui et cessons d'essayer d'exorciser nos peurs en mettant un chanteur chrétien, un chanteur juif, un musulman à côté, mais construisons vraiment. Et pour construire, il faut apprendre à se connaître, à s'apprécier. Souvent, on parle de tolérance ou de respect, mais il faut aller plus loin, il faut s'aimer. Il faut vraiment connaître toute cette poésie soufie et de même, les musulmans doivent apprendre à connaître toutes les richesses de la mystique, de la spiritualité chrétienne. Et donc, la clé, comme toujours, c'est apprendre à s'apprécier et à s'aimer et à travailler ensemble.
Bon, vous allez rester à mes côtés tout le mois d'août, je pense. Ça vous va? Pourquoi ça a mis près de 25 ans à voir le jour, ce projet? Vous avez dit que ça avait commencé vers 97,
parce que
99.
Je travaille sur la longue durée. Je travaille sur longue durée. Vous voyez, le disque, quand on a sorti la messe, le Requiem de Divitis, il y a 10 ans, c'est un projet qui a pris 15 ans aussi. Parce que j'aime aller au fond des choses. Et puis, on est dans une société où ce que j'appelle la dictature du zapping. Vous avez fait une chose une fois. Après, voilà, les étudiants, il faut faire autre chose. Et tout, on court toujours après une illusion. Et non, moi, je travaille différemment. Je travaille sur la longue durée.
Josquin des Prés, longue durée aussi, puisqu'on fête ses 500 ans, le 27 août 1521, grand compositeur franco-flamand de la Renaissance, le plus célèbre. Vous avez enregistré sa Missa Pangelingua.
Pangelingua, oui. C'est en 85, je crois.
Et là, on écoute l'offertoire. Un mot sur ce compositeur que vous avez enregistré là, donc il y a quelques années.
Alors, l'offertoire, ça c'est du plein chant, mais qui est chanté à la manière du 15e siècle. Écoutez, c'est un des monuments de l'Occident, hein, et c'est la fin du 15e siècle, c'est le moment. À mon avis, musicalement, c'est là où l'Occident a atteint son plus haut développement.
Oh.
en s'ouvre.
Sur France Musique, à 8h46, nous continuons à parler avec Marcel Pérez, notre invité ce matin. À l'instant, l'offertoire de la messe du Saint-Sacrement, plein chant grégorien, chanté à la manière du 15e siècle par l'ensemble Organum et l'ensemble Clément Jeannequin, dirigé par Marcel Pérez. Donc, en fait, c'était pas du Josquin des Grés.
Non, mais c'est chanté à la manière à laquelle, dans la tradition franco-flamande, à l'époque, on chantait le plein chant. Et c'est une manière qui a profondément influencé toute l'Europe, parce que c'est les chants franco-flamands qui ont fécondé tout le mouvement polyphonique, aussi bien en Espagne qu'en Italie, à la charnière du 15e et du 16e siècle.
Marcel Pérez, comment tout ça a commencé chez vous, cette envie de vous approcher de ces répertoires lointains et plus anciens? Comment ça a commencé dans votre carrière de musicien?
Écoutez, c'est la curiosité. En fait, à l'origine, je suis compositeur et organiste. Et donc, j'ai commencé à me poser la question très tôt, pourquoi les orgues sont arrivés dans les églises et comment? Parce qu'en fait, personne s'était posé la question. Et donc, je suis remonté dans le temps, 15e, 14e, 11e siècle. Enfin, j'ai trouvé que c'est justement la charnière de l'an 1000 qu'on a commencé à mettre des orgues dans les églises. Et donc, il fallait trouver qu'est-ce qu'on jouait sur ces orgues. Et donc, il n'y a pas de partition pour orgue. Les partitions, elles arrivent à la fin du 15e siècle pour orgue. Et donc, il a fallu s'intéresser à la musique vocale. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait des continents entiers qui n'étaient pas explorés. Ça, c'était au début des années 80. Et petit à petit, ça m'a absorbé. En tant que compositeur aussi, j'avais vraiment une formation classique, je dirais. J'avais étudié la musique sérielle, toutes ces choses-là. Et je me suis aperçu qu'il fallait refaire toute mon oreille, quoi. Donc là, j'avais une vingtaine d'années. Mais qu'il fallait refaire toute mon oreille, apprendre à entendre une monodie, apprendre à entendre une polyphonie à deux voix, qui me semblait à l'époque quelque chose d'assez simple, finalement, parce que j'étais habitué aux grands agrégats sonores. Et donc c'était un travail sur la perception du son également qu'il fallait faire, et petit à petit je me suis aperçu que au-delà du son justement, eh bien on entre dans des problématiques qui sont celles de mentalité, de relation à la mémoire, et voilà, et je suis remonté jusqu'à l'Antiquité comme ça.
La mémoire vive, c'est ça, c'est sentir que tout est lié entre le passé et le présent, le proche et le lointain.
Et puis vous voyez, la musique a toujours été dans toutes les sociétés traditionnelles l'outil pour accéder à une mémoire. En fait, c'est pour ça que la déesse de la musique était la fille de la déesse de la mémoire chez les Grecs dans l'Antiquité. Chanter, c'est se souvenir, quoi. Et le rôle du chantre, c'est de maintenir vivante une mémoire, quoi.
Et on le sent, vous le dites d'ailleurs dans votre livre qui retrace les 20 premières années de votre ensemble Organum, 1982-2002, le chant de la mémoire, écrit avec Xavier Lacavalerie. Pour chanter, il faut aussi connaître l'homme, c'est-à-dire ses habitudes.
Oui, c'est ça.
Son imaginaire, son quotidien.
Oui, parce que la musique, finalement, est l'outil privilégié pour une histoire des mentalités, parce qu'au travers de la musique s'exprime tout ce que à quoi l'on croit, ce que l'on sait, ce que l'on sait de la mémoire de nos sociétés, mais aussi de la mémoire de notre corps, parce que quand on parle de mémoire, il faut distinguer les différentes mémoires. Il y a la mémoire personnelle, après il y a la mémoire biologique de notre corps, puis il y a la mémoire du groupe, puis après, tout ça c'est au niveau du conscient, après il y a les mémoires inconscientes aussi. Donc c'est vraiment comme un kaléidoscope, et la musique, eh bien, est l'instrument qui nous permet de naviguer au travers de toutes ces mémoires. Et justement, quand on veut faire revue des répertoires disparus, eh bien, il faut rentrer dans toutes ces problématiques mémorielles, quoi.
Mais c'est ce que vous portez avec le cœur depuis 2001 à Moissac, au Centre itinérant de recherche sur la musique ancienne. Eh bien, vous avez fêté vos 20 ans.
On développe ces activités, oui.
Marcel Pérez, est-ce qu'il y a encore des répertoires oubliés que vous voudriez faire revivre? À quoi vous pensez?
Oh, écoutez, oubliez peut-être pas, mais qui sont connus, vous voyez, il y a des répertoires qui sont connus des musicologues, qui sont connus des historiens, mais qui ne sont pas explorés. Écoutez, le premier qui saute à mes yeux, c'est l'école Notre-Dame, par exemple. Alors, Notre-Dame, on a beaucoup parlé récemment à cause de l'incendie, de la toiture, mais pratiquement personne chante ce répertoire. Il y a quelques musiciens en France qui le font, ils ont beaucoup de mérite, mais c'est dans l'indifférence générale, vous voyez, et ce répertoire, on n'a même pas chanté aujourd'hui moins de 10% de ce répertoire. Et là, il y a vraiment un véritable enjeu, parce qu'on s'émerveille devant l'architecture, mais la musique, nous aide à comprendre comment ces hommes, quelle était l'énergie qui leur a fait construire ces monuments de pierre qui forcent nos admirations aujourd'hui. Mais la clé de la compréhension et la clé qui pourrait nous-mêmes aujourd'hui nous permettre de reconstruire de tels bâtiments, eh bien, c'est la musique qui nous révèle la qualité de l'énergie qui les animait. Et ça, c'est un champ énorme à développer. Et voilà, c'est pas ma seule priorité, mais c'est une de mes priorités aujourd'hui. D'autant plus que après cet incendie, ben, Notre-Dame est appelée à une véritable renaissance. Et j'espère que ça sera une renaissance qui ne sera pas uniquement refaire une toiture et puis faire de belles choses pour que les touristes puissent venir visiter ça, mais vraiment qu'on entre dans les véritables enjeux anthropologiques et spirituels.
Suite justement à l'incendie, entre guillemets, on a réédité donc récemment votre disque qui avait enregistré donc la messe de Notre-Dame de Machaut, disque de 96 avec votre ensemble organum Marcel Pérez. Une messe que vous allez donner ce vendredi 6 août dans le cadre du festival Musique à la Source en Creuse à Évaux-les-Bains et puis également le 28 août au festival de musiques anciennes d'Utrecht, aux Pays-Bas. Un grand merci Marcel Pérez d'avoir été avec nous. Une dernière question comme chaque jour que je pose aux invités. Vous iriez où, avec qui et en écoutant quelle musique pour votre plus grand plaisir?
Écoutez, je vais vous surprendre, mais en fait, pour mon plus grand plaisir, j'écoute pas de la musique. Non, j'écoute la nature, le vent, les oiseaux, les insectes. Ça, c'est vraiment parce que pour moi, c'est la vraie musique. Et ce que nous, on essaie de faire comme musique, eh bien, c'est de rentrer, par notre musique, on essaie de rentrer dans ce flux du monde, ce flux de l'univers. Donc, c'est un outil privilégié. Mais pour moi, le grand maître de musique, ben, c'est la nature, c'est le cosmos.
Merci Marcel Pérez d'avoir été avec nous ce matin. On écoute la News Dei de la messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut. Très bon concert et très bel été.
Merci.
Thank you.
Un disque décrété parmi les 100 meilleurs disques au monde du XXe siècle par le New York Times. La messe de Guillaume de Machaut, messe de Notre-Dame, à l'instant l'Agnus Dei, par l'ensemble Organum dirigé par Marcel Pérez. Merci d'avoir été avec nous ce matin. La réponse à notre jeu, vous avez été nombreux à participer, merci beaucoup. Et bravo aux gagnants Huguette à Villeneuve de la Rao et Michel à Angers. Il fallait répondre, le piano, Messiaen était au piano lors de la création de son quatuor pour La fin du temps. Merci à toute l'équipe de Musique Matin, Élise Lejeune et Lara Castiglione, Tassia, Taïssia Froidure à la réalisation et à la technique avec nous ce matin, José Bernès et Frédéric Kiefer. Je vous retrouve à 7h30 demain pour un nouveau Musique Matin et avec joie. Et tout de suite avec joie également Charlotte Landru-Chandès. Bonjour.
Bonjour Gabrielle.
Alors, ce programme, Charlotte.
Alors, ce programme, bah, écoutez, de la belle musique, Brahms, évidemment, Rachmaninov.
Oui. Maintenant, on sait qu'il y aura du Brahms à chaque fois.
Eh bah ben oui, ça, vous n'y échapperez pas.
Voilà. Allez, très bonne émission.
Merci, bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.